Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la présentation. Je commencerai mon intervention par l'explication de la double signification du mot perversion qui est présent dans mon titre. D'abord, l'association du terme perversion avec celui de maternité restreint par la tribu fasciste s'explique par le mot que Deleuze et Guattari utilisent pour définir la psychanalyse dans leur ouvrage L'Anti-Œdipe, lorsqu'ils écrivent que c'est toute la psychanalyse qui est une gigantesque perversion, une drogue, une coupure radicale avec la réalité, à commencer par la réalité du désir. À la limite, la psychanalyse ne se mesure plus à aucune réalité, ne s'ouvre plus sur aucun dehors, mais devient elle-même l'épreuve de la réalité et le garant de sa propre preuve, la réalité qu'on manque, auquel on ramène le dehors, le dedans, le de part et l'arrivée. Voilà. La psychanalyse est donc une perversion de la réalité en ce qu'elle s'érige face à elle comme un pouvoir normatif et répressif qui ramène toute manifestation de l'existant à son propre horizon clos de sang. Il en va de même pour la culture fasciste et ce mythe le plus fondateur, celui de la maternité. Tout comme la psychanalyse, en effet, la culture fasciste dévie les flux créatifs du désir pour le soumettre à des structures de pouvoir matériel et symbolique afin de domestiquer la femme en organisant sa pulsion sexuelle uniquement dans le domaine de la domesticité, du maternage et de l'appropriation. Cette dernière, au sein d'une politique strictement fondée sur le contrôle du corps féminin, devient une mission politique, un devoir et une responsabilité des femmes envers cette même patrie qui les excluait de toute autre tâche et rôle, selon une dynamique que Marie-Antonietta Mazzocchi a déjà qualifiée de politicizzazione antipolitica delle donne. Face à cette perversion opérée par le fascisme à l'égard de la dimension féminine, la Massaia de Paola Massino est cependant capable d'en accomplir une autre. Nous sommes en effet devant le personnage d'une massaïa perverse au sens, je dirais, sesso-politico, qui convient au fascisme, puisqu'elle viole l'un des premiers commandements du mythe du massaïsme, selon lequel, je cite du roman, la casa è la famiglia, un'istituzione sacra che va rispettata e difesa, e più si accresce il bene del paese, è dovere della sposa farla prosperare. Partant d'une sollecitazione formulée d'abord dans l'ouvrage La Perturbante, da Sunheimlich nella scrittura delle donne, de 2003, sulla direzione di Leonora Chiti, Monica Farnetti e Uta Treder, ma contribution vise précisément à illustrer la manière dont la Massaia de Paola Massino incarne une puissance de domestication du mythe de la mère, capable de réinterpréter l'exigence du maternel et de réinvestir cette dimension d'un désir proprement féminin, étranger à la structure perverse et normative du pouvoir phallique fasciste. Avant d'analyser cette situation dans le roman, je souhaiterais toutefois mettre en lumière la manière dont la maternité constitue pour la Mansaya une expérience originellement compromise. En effet, son rapport à la mère est entravé par l'adhésion totale de cette dernière aux normes de la société patriarcale, alors même que sa fille souhaiterait continuer à vivre recluse dans la malle où elle a passé la première partie de sa vie. Comme on s'en souviendra, en effet, la Massaia a choisi de sortir de la malle uniquement par amour pour sa mère, c'est-à-dire pour éviter que celle-ci ne meure de crépacuore, de chagrin. Il s'agit donc d'un acte de sacrifice, un renoncement en soi, motivé par l'amour pour la mère, mais c'est également pour découvrir le sens de ce mot « mamma » que la Massaia sort pour la première fois de la malle et s'adresse à sa mère en ce terme. Mamma, disse la fanciulla con pena grave, perché fa questo dolore dire mamma? Se uno lo dice davvero perché ne ha bisogno, non per abitudine. O mamma, non puoi per farmi un piacere una volta provare tu a chiamare mamma? Prova e dimmi che cosa senti? La domanda della figlia sembra donc répondre à l'instinct de réactiver le son d'une généalogie féminine. C'est-à-dire le sens d'être la fille d'une fille d'une fille, et révèle que son attachement à la mère est, comme Luisa Muraro le dit, comme le dit Luisa Muraro, un amore non per la propria madre, ma per la sequela delle madri, ossia per quella struttura che fa di ogni bambina il frutto interno di un interno di un interno. Toutefois, cette généalogie est interrompue, comme le montre la réponse che la mère donne alla fillette. Tua nonna è morta da un pezzo. Se io dicessi mamma senza che questo corrispondesse a una persona, sarei pazza. Cette réponse décrit, je pense, de manière très très claire l'appartenance de la mère à l'ordre d'une logique véritablement hégélienne, donc masculine, selon laquelle la raison doit se conformer à la réalité et la réalité à la raison. La mère et la fille ne peuvent ainsi, ne peuvent donc se rencontrer sur le terrain commun du langage symbolique que la figure maternelle devrait réactiver et transmettre à la fille, puisque c'est la mère elle-même qui ignore la valeur de ce langage. Ce qui est en jeu ici, en effet, c'est précisément la possibilité pour la fille d'accéder à l'univers symbolique du maternel à travers la langue de la mère, c'est-à-dire à travers cette langue, je cite de Luisa Muraro, che si forma dallo scambio fra parole ed esperienza, scambio originariamente regolato dalla madre. Avec cette prémisse, le thème de la maternité traverse le roman comme un fil rouge, en se manifestant toujours à travers la confrontation entre la protagoniste et ses alter ego, qui incarnent le destin possible qu'elle aurait pu connaître, voire celui d'une madre prolifica et celui d'une jeune fille apprentie massaïa qui va finalement échapper aux lois du massaïsme. Venons donc à la rencontre entre la massaïa et son premier alter ego, celui de la madre prolifica, cette femme exténuée par d'innombrables grossesses, que la protagoniste rencontre dans un cimetière où elle a pénétré à la recherche d'un endroit convenable pour sa propre sépulture. Dans ce lieu se dresse devant elle la figure d'une mère squelettique qui habite là avec son homme et ses enfants, tous à peine plus que de nouveau-nés, à l'exception de ceux qu'elle allaite deux par deux. Le parole de cette femme, une madre prolifica, font comprendre la massaïa qu'elle est née l'alter ego, une sorte de mère porteuse qui a enfanté des enfants qui ne sont pas les siens, conçus avec un mari qu'elle n'aime pas, mais avec lequel elle doit sans cesse accomplir la tâche imposée de la maternité. La scène s'inscrit manifestement dans un contexte mortifère. De cette manière, Massino révèle son intention de lier le thème de la maternité à celui de la mort. Cette mort doit être abordée, doit être comprise d'abord comme religio mortis, selon l'acception employée par Furio Jesi, pour expliquer la tension existante entre la culture fasciste et une certaine sacralisation de la mort, c'est-à-dire comment la culture fasciste a fait de la mort héroïque une valeur à poursuivre dans la vie. En second lieu, le passage du roman dans lequel le parent du cimetière s'adresse à la massaïa sur un ton de reproche, voire de mépris, conduit naturellement à une réflexion sur le projet de contrôle de la vie mis en œuvre par le fascisme, c'est-à-dire sur la dimension thanatopolitique que le régime met en œuvre par l'imposition d'exigences vitales précises à travers les campagnes pronatalistes mussoliniennes. Cela signifie que le corps de la femme est à la fois un instrument de vie et de mort, parce que ça assure la prolifération d'un genos désigné comme juste, la progéniture italienne, au détriment d'un autre désigné comme ennemi et donc destiné à mourir, afin de préserver un régime dont la finalité est toujours le même et dont l'instrument est la prolifération fictive ou tautologique, selon la définition donnée par Deleuze et Guattari. Il apparaît alors clairement que la politique de la reproduction forcée menée par le fascisme ramène le féminin dans les mailles étroites d'une généalogie de l'origine, celle de l'Ursprung, dont le sens est éclairé par Foucault dans un article qu'il consacre à Nietzsche en 1971. L'Ursprung serait, dans le mot de Foucault, l'origine miraculeuse, Wunderursprung, que la métaphysique cherche, c'est-à-dire toute cette idéologie métaphysique que régit toute politique nationaliste fondée sur l'idée d'une identité première. La non-maternité de la massaïa, par contre, est significative en termes de rapport au féminin et de création d'un autre type de lien avec celui-ci, un lien qui ne passe pas nécessairement par la filiation de sang, mais qui se déploie, pour ainsi dire, en termes anti-originaires, par le biais de pratiques telles que la cura et l'affidamento. Ainsi, la massaïa se découvre maternelle et non mère, au moment où une jeune femme lui est confiée en espérant recevoir de sa part un apprentissage complet de la vie de fédéologie. En réalité, cependant, la Masaya n'est pas véritablement en mesure de transmettre le code de conduite de la fée du foyer de maison. D'abord parce que le rapport se déroule sur un plan d'égalité plutôt que de subordination, parce que, comme Lonzi l'écrit, il rapporto hegeliano servo padrone è un rapporto interno al mondo maschile, alors che le rapport entre femmes s'articule plutôt autour de l'appel à reconnaître en l'autre sa semblable, la propria simile, e non sa subordonnée. Pour cela, la transmission qui aura lieu entre la Masaya et la jeune fille porte en réalité sur un savoir absolument antitraditionnel, donc entièrement féminin, en ce qu'il échappe aux logiques du masaïsme et aux autres obligations imposées par le phallocentrisme aux conduites et à l'existence des femmes. La relation entre la Masaya et son apprenti se révèle capable de réactiver chez la première un sentiment de similarité, ainsi que le souvenir de son propre lien à sa mère. Voilà. En reconnaissant chez l'apprenti la même attitude qu'elle-même avait autrefois, la Masaya fait expérience, tout comme sa mère à l'époque, de l'unheimlich que la jeune fille incarne lorsque, bien qu'elle désire devenir fée du foyer, elle se trouve confrontée à une nature qui échappe aux lois patriarcales. La Masaya vit ainsi un réveil de la mémoire qui a en quelque sorte pour effet de la rendre mère dans un sens autre que celui désigné par la rhétorique fasciste et qui repose plutôt sur la possibilité de retrouver dans la relation avec une autre femme le lien de filiation avec sa propre mère, dont la Masaya a en effet l'impression de répéter les réactions. La dimension de la maternité devient ainsi accessible à la Masaya par la possibilité de réactiver la généalogie féminine, c'est-à-dire de se reconnaître à la fois fille et mère au sein d'un continuum où aucune expérience féminine n'est perçue comme étrangère ou incompréhensible. En conclusion, lorsque je fais référence au pouvoir de la Masaya de pervertir le mythe fasciste de la mère, je parle de la capacité de ce personnage à transcender la dimension rationnelle et historique d'un mythe qui s'enracine dans un substrat culturel valorisant la femme uniquement en tant que mère et qui la laisse adhérer pleinement à ses rôles tout en l'en privant de sa dimension intime. Opposé à cette notion, le concept de généalogie féminine, c'est-à-dire une filiation qui progresse de manière horizontale, polycentrique, plutôt que fondée sur le fétichisme d'une origine unique transmise selon verticalité, tout ça signifie élargir le pouvoir du maternel en le restituant à sa puissance, entendue comme dynamis, je dirais au sens aristotélicien. C'est-à-dire comme en puissance ou dans le terme de Lucie Rigaret comme puissance non actualisée ou encore comme potenza di nonna, selon l'interprétation donnée par Giorgio Agamben dans sa lecture de la dynamis aristotélicienne. Dans la continuité de cette réflexion, dans son essai Nonostante Platone, Adriana Cavarero écrit que la puissance maternelle, qui est plus vaste que le simple pouvoir de, est, je cite en italien, potenza piena di generare e di non generare. Non essa deve generare, ma ha generato e può generare, poiché si porta in grembo tanto l'apparire come forma dell'infinito passato e futuro, quanto il nulla nella forma solo futura del non più. E proprio qui sta il significato più profondo del segreto femminile della vita, attribuito dalle culture delle origini alla grande madre. Il generare è esperienza solo femminile, ma non è un processo automatico e necessitante di cui le donne siano mero veicolo. Grazie.